Radio Kapi.
Le journal Lievin Mbwinga. Bon après-midi à tous. D'abord, l'ossature de ce journal. Intense activité diplomatique pour Félix Tshisekedi à New York. Le président congolais a échangé avec plusieurs personnalités, comme le secrétaire général des Nations Unies et certains chefs d'État du monde. Son grand oral est attendu dans quelques heures. Dans ce journal, nous allons nous appesantir sur la nationale numéro 4 dans la province de la Tshopo. Un casse-tête pour les passagers et les véhicules. En cause, l'état piteux de cette voie d'intérêt socio-économique très important. Autre difficulté, ce sont celles qu'éprouvent les populations de l'Ituri avec notre invité Christophe Lonema, président provincial de l'AFEC. Nous allons décortiquer certains mots qui rongent cette province. Encore une fois, bonjour. Félix Tshisekedi devant la tribune des Nations Unies ce soir. Le discours du président de la RDC à New York est très attendu. Mais notez que hier, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais a eu plusieurs échanges, notamment avec ses collègues de la Serbie et de la Pologne, et aussi avec le secrétaire général de l'ONU et le philanthrope Bill Gates. Le condensé de ses rencontres avec Blaise Shindani Kambala.
Avec le secrétaire général des Nations Unies, les discussions ont porté sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et des efforts des pays régionaux en cours. Antonio Guterres a réitéré le soutien des Nations Unies aux initiatives des pays régionales. Dans son rencontre avec le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates, il a été question de l'évaluation de la situation sanitaire en RDC, mais aussi le soutien au système éducatif du pays, rapporte la présidence de la RDC. D'après la même source, le président Tshisekedi a évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun entre la RDC, la Serbie et la Pologne. D'une manière particulière, le président Tshisekedi et son homologue polonais Andrzej Duda ont parlé des perspectives des partenariats dans les domaines de la digitalisation, de la transformation numérique et sur la coopération dans les domaines de la défense axée sur la surveillance des frontières.
Je vous rappelle que le discours du chef de l'État congolais est à suivre en direct en FM et dans nos plateformes digitales. Diplomatie parlementaire en marche, le nouvel ambassadeur de la France a échangé hier mardi avec les présidents des deux chambres du Parlement. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou-Kondé, a passé en revue les priorités de cette institution avec Rémi Maréchaux, alors que celui de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est élargi sur la coopération avec le Parlement français. Se confiant à la presse, au terme de cette audience, l'ambassadeur de France a réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Rémi Maréchaux est au micro de Michel Kifindangoy.
Je viens d'arriver en République démocratique du Congo. J'ai présenté mes lettres de créance au chef de l'État jeudi dernier. Et maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres, et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir.
Notez que par la même occasion, le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchaux, a remis à Vital Kamerhe l'invitation de son homologue français, Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale de France. Arrestation de Seth Kikuni et d'autres acteurs, les principaux partis politiques de l'opposition en RDC tapent du poing sur la table. Ils appellent à leur libération puisqu'incarcérés selon ses opposants pour leurs opinions sur ordre du régime actuel. Dans une déclaration rendue publique mardi, ces opposants attirent l'attention de la communauté africaine et internationale sur les dérives autoritaires qu'ils attribuent au pouvoir de Félix Tshisekedi. Ronely Timbonera pour les détails.
L'arrestation de Seth Kikuni, suivie de son incarcération dans les locaux des services de renseignement, la détention de Jean-Marc Kabound et Mike Mukebai, ainsi que deux activistes pro-démocratie, Jacques Sinzaira et Gloire Sassita, sont parmi les faits reprochés au régime de Félix Tshisekedi. Pour l'opposition, les signaux sont au rouge. Le régime actuel tend à instaurer un régime à pensée unique et qui vise à museler l'opposition, en dit-elle dans sa déclaration. L'opposition regrette qu'aujourd'hui que les services de sécurité, à savoir la MIAP et l'ANER soient utilisés à des fins de répression politique, traitement inhumain et dégradant et dont les auteurs ne sont pas jugés. Exprimant un besoin de justice et rappelant la nécessité du respect des droits et libertés citoyens, l'opposition plaide pour un rejet de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité des droits de l'homme de l'ONU pour la contraindre à revoir sa politique en matière de respect des droits humains. Cette sortie médiatique de l'opposition intervient alors que se déroule à New York la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU d'où va s'exprimer ce mercredi, le président Félix Tshisekedi.
Et puis, le département du travail des États-Unis d'Amérique ajoute le cobalt de la RDC à la liste de 2024 des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. Oui, c'est ce qui est contenu dans une note d'information adressée cette semaine au gouvernement congolais par Cobalt Institute, une association commerciale mondiale représentant l'ensemble de l'industrie et de la chaîne de valeur du cobalt, dont une copie est parvenue à Radio Okapi. Grâce à Mzati pour plus de détails.
À en croire Cobalt Institute, les versions précédentes du rapport incluaient le travail des enfants en RDC en raison de son occurrence historique dans les mines artisanales, tandis que la mise à jour de cette année établit un lien entre le travail forcé et l'exploitation minière artisanale et industrielle. Le cobalt congolais est l'un des 29 nouveaux produits ajoutés à la liste, qui comprend également le minerai de cuivre de la RDC et de la Zambie. Les produits contenant du cobalt comprennent des biens considérés par le département du travail comme essentiels à la transition vers l'énergie verte, à l'informatique des pointes et à la sécurité nationale, tels que les véhicules électriques, les semi-conducteurs et les batteries, et sont également jugés à risque. Toutefois, cette inclusion ne signifie pas nécessairement que ces marchandises seront automatiquement arrêtées aux frontières des États-Unis. Néanmoins, ça augmente la probabilité qu'elles fassent l'objet d'un examen plus approfondi de la part des autorités américaines en raison des interdictions d'importation. Rappelons que la liste TVPRA est un rapport produit tous les deux ans par les départements du travail des États-Unis, avec comme objectif de sensibiliser le public au risque plus élevé que la normale qu'un bien provenant d'un pays donné ait été produit par les travail forcés ou le travail des enfants.
Rouler sur la nationale numéro 4 Kisangani Ituri ou Beni, un casse-tête pour les passagers des véhicules qui fréquentent cette voie. En raison de l'état piteux de cette route d'importance socio-économique indéniable, les véhicules mettent plus de temps que prévu pour arriver à destination. Les conducteurs des véhicules et les passagers s'en plaignent. Ils s'interrogent en même temps sur la destination que prennent des milliers de dollars américains que paye chaque véhicule en partance ou en provenance des provinces ou des pays voisins. Explication Jacques Mokonkole.
Emprunter la nationale numéro 4, la route de l'Ituri et Oudinor-Kivu, c'est faire le chemin de la croix. En effet, de grands bourbiers parsèment la chaussée à bien des endroits, ce qui contraint les véhicules au stationnement pendant plusieurs jours, sinon des semaines. Pour en sortir, d'énormes efforts ou l'intervention d'autres compagnons des routes sont requis. Les points chauds sont localisés notamment au point kilométrique 170, 180, 186, 202 et 205. À ce dernier point, un gros camion plein de marchandises s'est renversée à la descente. La veille, un autre grand véhicule et une remorque s'étaient embourbés dans des grands trous qui se créent au fil de passage de ces engins lourds. Cette situation occasionne le blocage des véhicules dont les fils s'étendent même jusqu'à 5 km. Entre 170 et 202 km, au moins 500 véhicules étaient en attente de passage jeudi dernier. Parmi eux, de nombreux camions-citernes, des bus de transport en commun ainsi que des véhicules de marchandises dont des produits alimentaires et des produits manufacturé. Alors que le ministre des ITP avait posé la première pierre pour l'asphaltage de cette route, malheureusement, le début des travaux se fait toujours attendre. De retour de la RN4, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre problème, c'est la non-maîtrise du langage des signes dans une communauté car elle constitue un blocage de communication aux personnes malentendantes et sourd-muets. C'est notamment en cas d'abus sexuel ou toute autre violence Basée sur le genre, les victimes sourds-muets ne savent même pas dénoncer ces abus auprès des parents ou à la police. Cette problématique a été évoquée mardi au cours d'une sensibilisation des sourds-muets sur les violences basées sur le genre. Sensibilisation organisée par la police de la MONUSCO à l'occasion de la Journée internationale du langage des signes. Sifa Maguru nous en dit plus depuis Goma.
Après avoir été informés sur les notions des violences basées sur les genres, ces sourds-muets ont eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations liées à ces violences. À travers leurs interprètes, les femmes sourds-muets ont affirmé être victimes de violences depuis leur famille, mais aussi dans la communauté.
Elle donne l'exemple en disant que lorsqu'elles sont victimes de violences sexuelles à la maison, le papa et la maman ne connaissent pas le langage des signes. Comment va-t-elle expliquer à son parent qu'elle vient d'être violée afin qu'elle trouve une solution?
Ces derniers ont recommandé aux agents de la police de suivre la formation en langage des signes qui est dispensée par leur école EFATA afin de rassurer les victimes sur la confidentialité.
Beaucoup d'entre elles ont honte de raconter leur histoire de peur qu'elles ne soient divulguées. Mais si elles parlent directement avec la police, c'est une bonne chose. Ici, nous avons cette formation pour tout celui qui veut apprendre.
Un numéro vert leur a été donné par un OPJ de la police afin qu'elles puissent dénoncer à tout moment des éventuels cas d'abus et violences. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour la population du Sud Kivu. L'OMS a remis des intrants de diagnostic de monkeypox au ministère provincial de la Santé. Ce lot de médicaments vient compléter la réponse à la lutte contre le mpox en province. La remise a eu lieu ce mercredi au cabinet du ministre provincial de la Santé. Rachel Kiesembango a assisté à cette cérémonie de remise d'intrants. Suivez.
C'est un lot des deux types. D'abord, les médicaments pour la prise en charge médicale gratuite des malades mpox pour 8 zones de santé, puis les matériels pour la prévention et le contrôle de l'infection pour 10 zones de santé. Docteur Makakala Constantin, chef de bureau AI à l'OMS Bukavu.
Il y a 32 zones de santé qui sont affectées sur 34 et il y a un besoin en médicaments. Devant ce besoin-là, l'OMS a mobilisé des ressources et c'est ce lot de médicaments que nous venons de remettre au ministre provincial de la Santé.
De son côté, le ministre provincial de la Santé, Walulika Muzaliwa Théophile, affirme que ces lots est une complémentarité dans la lutte contre l'épidémie en province.
Ça va quand même soulager pour les 8 zones de santé. Et vous savez que c'est des complémentarités. Les autres partenaires, le gouvernement vont aussi aider pour compléter d'autres zones de santé. Pour cette maladie, c'est mieux de comprendre d'abord la population qui est en épidémie. Cette maladie existe. Respectons quand même les mesures barrières, que chacun s'assure son voisin pour ces mesures.
Signalons qu'au Sud Kivu, 7889 cas ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie avec 43 décès. Les zones de santé de Miti-Muresa et de Niangezi sont les plus touchées. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Kapi.
Ce triste souvenir à présent, le 24 septembre 2016, cela fait 8 ans aujourd'hui, depuis qu'une folle rumeur partie du quartier Païda de la ville de Beni poussait des centaines de personnes dans les rues sans aucune vérification de la source de cette rumeur. De nombreux habitants se précipitèrent dans les rues, mais qu'est-ce qu'ils fuyaient exactement? Une présumée attaque des rebelles des ADF dans cette débandade. Il y eut une vingtaine de morts. Retour sur ces faits avec Sadiki Aboubakar.
Ces jours-là, 24 septembre 2016, à la suite d'une folle rumeur faisant état d'une attaque des ADF à Rwangoma, des mouvements spontanés des personnes commencèrent vers midi. De l'est à l'ouest, d'un quartier à un autre, les gens se déportaient jusqu'au centre-ville. Mais personne pour se demander ce qui se passait. Sous une forte pluie, tout le monde avait pris la direction ouest de la ville jusqu'à atteindre Mangina, soit 30 km à pied. Trésor Kapepela, un journaliste de Beni, raconte.
Alors, partout là où ils arrivaient, le seul message qu'ils propageaient, c'était de dire que des ADF viennent de tuer plusieurs personnes dans les quartiers Rwangoma et qu'il y avait des cadavres partout. En termes de bilan, d'autres sources parleront de 15 morts, mais les quelques enquêtes que j'ai menées m'ont amené jusqu'à une vingtaine de morts.
La désinformation tue, rappelle Jean-Toby Okala, le chef des communications stratégiques et de l'information publique de la Monisco Beni.
Nous demandons aux gens de faire très attention avec ce qu'ils diffusent comme information parce qu'il y a des vies qui sont en danger. La désinformation, c'est le poison qui tue la société moderne.
Il faut toujours prendre soin de vérifier une information avant de la partager, ajoute-t-il. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une des pires crises de santé maternelle et infantile au monde frappe la région du sud du Darfour au Soudan, selon un rapport publié ce mardi par Médecins sans frontières. Depuis le début des violences en avril 2023, l'organisation a enregistré 114 décès maternels, souvent causés par la septicémie, dans des hôpitaux saturés. Plus de la moitié des décès surviennent à l'admission, les femmes arrivant dans un état critique en raison de coûts de transport prohibitifs et du manque d'infrastructures. Structure médicale.
L'invité.
L'insécurité, l'absence d'électricité, mais également les difficultés récurrentes des moyens de télécommunication freinent l'émergence économique de l'Ituri. Christophe Lonema, président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, plaide pour le rétablissement de la paix en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces étroitement liées par des échanges commerciaux. Il s'entretient ici avec Martial Papimoukeba. Suivez.
Christophe Lonema, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quel défi économique l'Ituri rencontre-t-il et comment la FEC y répond-elle?
Le premier défi, c'est les routes nationales. Je cite RNV7, c'est la grande route nationale des Gaulliers jusqu'à Komanda, à travers ça par la ville de Bounia. Cette route est encore dans un état de délabrement avancé et c'est là qui bloque la bonne circulation car c'est cette route qui alimente la ville de Bounia et les provinces voisines. En deuxième lieu, nous citons les problèmes énergétiques. Nous avons un problème sérieux de l'électricité ici à la ville de Bounia. S'il y avait le courant, ça pouvait favoriser même le fonctionnement des usines, des petites usines ici au niveau de la ville de Bounia. Mais le courant pose vraiment problème. Et à troisième lieu, il y a question des barrières. Il y a des barrières à l'entrée de la ville de Bounia où se grèvent certains services pour percevoir auprès des opérateurs économiques.
Vous parlez de barrières illégales.
Trop de barrières illégales, il y a aussi des barrières qui sont érigées à l'entrée de la ville, là où se trouvent les services de l'État, qui perçoivent certaines taxes. Mais à part ça, les routes là des dessertes agricoles, là, il y a plus de barrières, pas moyen d'évacuer les marchandises de centre-ville à l'intérieur.
Et comment la FEC collabore-t-elle avec les autorités pour soutenir l'émergence de l'Ituri?
La FEC est en très bonne collaboration avec les autorités. Nous sommes en train de plaider pour que l'économie de l'Ituri aille de l'avant. C'est ça notre souci majeur. Alors, il y a des stratégies qu'on est en train de monter avec les autorités provinciales pour que nous puissions quand même émerger comme les autres provinces.
Qu'est-ce que vous faites réellement comme action concrète en tant que FEC?
Il y a une organisation qu'on a fait avec le gouvernement provincial pour qu'il y ait asphaltage de la ville de Bounia avec l'entreprise Safricas. C'est aussi la contribution de la FEC.
Et donc, c'est un partenariat public-privé, l'asphaltage de la ville de Bounia.
Voilà, c'est un partenariat public-privé.
Par là de l'émergence toujours de l'Ituri, quelle initiative la FEC met-elle en place pour promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes dans la province?
Nous avons essayé d'organiser les femmes au sein de la FEC dans le secteur femmes entrepreneurs. Et ce sont les femmes qui se débrouillent, ce sont des femmes qui ont leurs activités, une quarantaine de femmes. Nous les avons regroupées au sein de la FEC pour qu'ils soient encadrés. Il y a des femmes qui produisent des savons, il y a des femmes qui fabriquent aussi farine de maïs associée avec les farines de soja. Et elles sont nombreuses. Chacune a ses attributions, mais elles sont quand même regroupées au sein de la FEC dans le secteur des femmes entrepreneurs. Et d'ici là, je crois que nous allons lancer aussi les jeunes entrepreneurs, parce qu'il y a aussi des trop jeunes qui se démènent, qui se débrouillent ici, ils sont des commerçants, ils sont des petits commerçants, qui se débrouillent. Nous cherchons aussi à les regrouper au sein de la FEC pour qu'ils puissent être encadrés et promouvoir aussi leurs activités.
Quelle attente la FEC a-t-elle vis-à-vis du gouvernement pour l'Ituri?
Si on peut déclarer l'Ituri et le Nord Kivu comme deux provinces sinistrées, compte tenu des nombreuses guerres qui se sont succédées sur ces deux provinces, L'Ituri est lié au nord Kivu. Si vous voyez la route RN4, ça transite Kisangani à passer par l'Ituri et au nord Kivu. Il y a les échanges commerciaux permanents qui se faisaient entre l'Ituri et nord Kivu cette fois-ci, compte tenu de ces problèmes des ADF, des groupes armés là, MV3. Alors, toutes ces routes sont devenues presque impraticables. Maintenant, les commerçants souffrent. Si vous voulez voir le nord Kivu, il faut prendre l'avion. Pas moyen d'aller par la route, ça devient très compliqué. La situation n'est pas si bonne. Il faut rétablir la sécurité au nord Kivu et à Ituri. Et aussi diminuer sensiblement le taux de certaines taxes auprès des opérateurs économiques, que le gouvernement puisse éradiquer les phénomènes groupes armés qui endeuillent les jours au jour la province, surtout de l'Ituri, parce qu'au nord Kivu, là, il y a des groupes armés étrangers, mais en Ituri, ce sont les fils de l'Ituri qui sont aussi dans ces affaires-là de tueries. Si le gouvernement pouvait éradiquer ces phénomènes de groupes armés, il faut rétablir la sécurité au nord Kivu et en Ituri.
Christophe Lonema, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Jean-Noël Mokondo.